Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
Jusqu'à 10h, le Positive Morning est cette semaine spéciale, Nathanaël, consacrée à la vie. Le but, retrouver le miraculeux autour de nous, celui qu'on ne voit plus, le réaliser finalement. On a abordé différents points et on aborde un dernier point en ce vendredi avec notre invité qui est Charles-Éric de Saint-Germain et qui est philosophe. Il est entre autres l'auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, écrit philosophico-théologique sur le christianisme, paru aux éditions Excelsis. Qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui, Charles-Éric.
Alors aujourd'hui, on va aborder la question des stades de l'existence et je vais en particulier me servir d'un philosophe danois qui s'appelle Søren Kierkegaard, qui s'est beaucoup intéressé justement à la dialectique des stades de l'existence pour essayer de montrer qu'il y a trois stades qui correspondent à trois manières d'envisager la vie. Alors, c'est vrai que ces stades peuvent correspondre à différents âges de la vie, mais il n'y a en réalité aucune nécessité dans le passage d'un stade à un autre, parce qu'on peut vivre toute sa vie, je dirais, dans le même stade, tout comme on peut effectivement voir les contradictions de l'un de ces stades qui permettraient à ce moment-là, effectivement, de passer dans le stade suivant.
Alors, on ne parle pas de foot, je précise, si on parle de stade, ce matin, il va y avoir trois types de stades, comme vous le disiez, le stade esthétique, stade éthique, stade religieux. On va commencer avec le stade esthétique dans quelques instants. Vos questions, réactions, ce matin, à notre invité, plus 33 652 300 342.
Profitez-en, il est avec nous jusqu'à 10h en duplex sur Phare FM, donc posez toutes vos questions, soyez pas timides.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
Toute cette semaine, nous célébrons la vie. On s'est posé justement différentes questions par rapport à la vie, selon différents points de vue aussi. Et forcément, quand on pense à notre vie, Charles-Éric de Saint-Germain, vous qui êtes philosophe, on se pose forcément la question du sens de l'existence. Quel est le sens de l'existence ?
C'est une très vaste question et je crois que le XXe siècle a développé un courant qu'on appelle le courant existentialiste, justement qui se proposait de considérer l'existence comme absurde, ou alors qui considérait que finalement c'était uniquement nos projets qui pouvaient donner un sens à l'existence. Alors la position que je vais développer est assez différente parce qu'il me semble que l'existence a un sens en elle-même et qu'il faut découvrir ce sens. C'est pas un sens que nous lui donnerions par nous-mêmes, par nos projets, par nos choix, mais c'est un sens qui préexiste et qu'il revient à chacun de découvrir, parce qu'il me semble que notre existence ne peut pleinement se réaliser que si l'on découvre sa vocation, c'est-à-dire ce à quoi on est appelé, ou encore ce à quoi Dieu nous appelle. Il me semble que c'est seulement cela qui peut donner du sens à l'existence.
Alors, on va arriver du coup sur ces différents stades. Vous le disiez, selon la période de la vie, il y a différents stades dans lesquels on peut se trouver. Et on va commencer par ce stade que vous appelez stade esthétique.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est pas moi, c'est Kierkegaard qui emploie ce terme. Alors, ce qui est intéressant dans le stade esthétique, c'est qu'il est illustré par une figure, comme chaque stade d'ailleurs, et la figure typique du stade esthétique, c'est Don Juan. Alors, pourquoi Don Juan ? Parce que Don Juan, c'est celui qui a une conception de la vie où il s'agit simplement de se laisser conduire par son désir, notamment de ne pas s'engager, de ne pas faire de choix, parce que faire des choix pour Don Juan, ce serait sacrifier certaines possibilités au détriment des autres. Or, pour Don Juan, il faut constamment, finalement, que la vie soit ouverte à de multiples possibilités, à tout un éventail de possibilités, sans qu'aucune possibilité ne s'impose comme étant, finalement, la mienne propre. Alors, le but de Don Juan, finalement, on le voit bien dans la quête du désir, c'est en quelque sorte de rechercher constamment le changement, la nouveauté, parce que ce que craint Don Juan, finalement, c'est que son désir se lasse. Il y a toujours un risque d'ennui lorsque le désir, finalement, ne parvient pas, ou du moins se fixe sur un objet, il y a toujours un risque de lassitude. Et voilà pourquoi Don Juan, c'est celui qui refuse d'engager son existence dans une direction donnée, parce qu'il préfère papillonner un petit peu sur tous les plaisirs. L'existence esthétique, si vous préférez, c'est un peu une existence touristique. Et ce que Don Juan ne supporte pas, justement, ce serait la routine, l'habitude, parce que pour lui, il faut surtout chercher à multiplier les expériences. On pourrait dire que sa vie, c'est un journal qui l'intéresse beaucoup. Et chaque femme rencontrée, finalement, c'est pour lui une occasion de distraction. Il s'agirait finalement de passer d'une situation intéressante à une autre situation intéressante, mais Don Juan ne veut pas s'engager. Hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui préfère finalement le miroitement du tout est possible. Et du coup, on peut se demander si Don Juan finalement ne préfère pas rêver sa vie en quelque sorte dans une sorte de fantasme permanent. Mmh. Par exemple, il refuse d'élire une femme, de se marier, parce que, comme je vous le disais, pour lui, choisir, ce serait nécessairement sacrifier toutes les autres.
Mmh. Et donc ça correspond à un état de vie, généralement, vers quel âge ça à peu près? C'est quoi? C'est l'adolescence?
Alors, c'est une vie un peu adolescente, je suis tout à fait d'accord en ce sens-là, c'est-à-dire que c'est une vie où l'on se cherche, où finalement on se laisse conduire par son désir. Alors, c'est vrai que ça peut correspondre hein, à un âge particulier de la vie, en général entre 20 et 30 ans, ou entre 15 et 30 ans, mais c'est un petit peu la vie libertine aussi, hein, parce qu'il s'agit simplement de se laisser conduire, de refuser de choisir. Il y a quelque chose d'adolescent, il y a un refus du sérieux de l'existence, en fait, dans cette existence esthétique. Parce que ce dont il s'agit, c'est de s'amuser, c'est de se divertir. Voilà pourquoi la vie esthétique a un aspect un peu frivole. Mmh. Elle a une forme de légèreté. Elle se boit, je dirais, comme une coupe de champagne pleine de bulles qui pétillent.
Alors on va continuer avec vous, avec beaucoup de modération bien sûr, hein, le champagne. On va continuer avec vous jusqu'à 10h sur Phare FM. Vos questions au plus 33 652 300 342.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
On célèbre la vie toute cette semaine, c'est notre thématique, retrouver la vie, le miraculeux de la vie dans toutes ses dimensions, en tout cas dans le plus de dimensions possible. Ça dure qu'une semaine, il aurait fallu que ça dure un an hein, pour qu'on retrouve absolument toutes
24
les dimensions.
24, oui.
Exactement. En tout cas, on parle du sens de l'existence avec vous, Charles-Éric de Saint-Germain. Vous êtes philosophe et vous êtes avec nous en duplex jusqu'à 10h. Alors vous nous disiez que quand on parle de sens de l'existence, on parle forcément de stade de l'existence. On parle du stade esthétique, alors celui un peu du Don Juan qui vit un peu au jour le jour, carpe diem. Hein, comme on dit, cueille le jour. Et alors, vous voulez nous dire que finalement, dans cette manière de vivre, puisque c'est bel et bien une manière de vivre qu'on peut avoir toute sa vie, par exemple, il y a des contradictions, Charles-Éric.
Oui, il me semble que dans le stade esthétique, il y a quatre contradictions qui montrent la difficulté de rester toute sa vie dans ce stade. Parce que d'une part, l'esthète, c'est celui qui, comme vous le disiez, vit dans le carpe diem, c'est-à-dire dans la recherche du plaisir, de la nouveauté. Mais en même temps, il a conscience que la satisfaction de son désir ne dure qu'un instant. Mmh. Et c'est quelque chose qui ne durera pas. Et le caractère éphémère, finalement, de cet instant qu'il cherche à cueillir, finit par ternir la jouissance elle-même parce qu'il a conscience de ce caractère éphémère. Mmh. Alors ça c'est une première contradiction. Une deuxième contradiction, ce serait de montrer que l'esthète croit que tout est possible. Mais si tout est possible, hein, si par exemple chaque femme est une occasion à saisir, il y a un risque de désespoir, un désespoir par manque de nécessité qui se rapproche finalement du désespoir lié à l'absurde. Mmh. Parce qu'aucune femme finalement ne s'impose à lui comme étant la femme de sa vie, comme étant la perle rare, la perle de Crimée. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vocation. Or c'est cette vocation qui me semble devoir être mise en avant si l'on veut éviter justement ces contradictions. Alors, une troisième contradiction serait de montrer que finalement, Don Juan, c'est celui qui veut affirmer la liberté de son désir, qui prétend que ce désir ne dépend d'aucune condition extérieure, mais il a quand même besoin des femmes hein, pour faire naître ce désir. Oui. Et enfin, une dernière contradiction, c'est que Don Juan, en réalité, recherche le changement, il recherche la nouveauté permanente, il veut éviter l'ennui de la monotonie, mais en réalité, c'est la même expérience qui ne fait toujours que se répéter, c'est-à-dire que les femmes lui cèdent les unes après les autres. Et son désir, en fin de compte, est toujours frustré et déçu parce que ce qu'il voudrait vraiment, c'est pouvoir intensifier ce désir. Or, pour que ce désir s'intensifie, il faut que la femme lui résiste. Oui. Mais si la femme lui résiste, son désir est frustré. Donc, on est dans une contradiction à ce niveau-là. Ce qui montre qu'il faut passer au stade éthique.
Et voilà. Et le stade éthique, justement, c'est le prochain stade. Et là, c'est comme vous nous le disiez en antenne, c'est le stade où on se soumet à des devoirs. Finalement.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que le stade éthique, c'est un stade où on exerce des responsabilités professionnelles et où il s'agit avant tout, effectivement, de se soumettre à des devoirs. Alors, c'est vrai que Kierkegaard, ici, se distingue d'un autre philosophe du devoir, qui est Kant, bien évidemment, parce que Kant insistait sur la nécessité d'obéir à une loi que l'on a soi-même instituée, mais il y a toujours quelque chose, un risque d'obéissance aveugle. Même si c'est moi qui pose cette loi, je risque toujours de lui obéir aveuglément. Alors que Kierkegaard, quand il parle de soumission au devoir, il insiste aussi finalement dans la nécessité de personnaliser le devoir. Hein, ce qu'il veut dire par là, c'est que finalement, l'éthicien, c'est celui qui est persuadé que le sens de la vie se trouve dans la joie de l'action, dans la conviction que l'obéissance au devoir apporte la satisfaction intérieure et le contentement de la vie. À la différence de l'esthète, l'esthète c'est un personnage assez excentrique, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va chercher à se faire remarquer, Don Juan veut sortir des normes, il veut sortir du lot. Laetitia, en revanche, c'est un homme ordinaire, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui mène une existence un peu bourgeoise, en se soumettant donc à ses devoirs quotidiens. Mais Kierkegaard montre qu'en réalité, c'est lui l'homme véritablement extraordinaire, parce que accomplir quotidiennement son devoir en s'y investissant, cela réclame effectivement une forme d'héroïsme. Et Kierkegaard insiste sur ce caractère héroïque de celui qui vit dans ce stade d'existence, hein, où il s'agit d'abord de faire des choix et d'assumer la responsabilité de ses choix.
Oui.
Alors c'est vrai que le devoir peut prendre différentes formes.
Et on va les voir dans un instant, si je me permets de vous couper, on va les voir dans un instant, justement, ces devoirs et les formes que prennent ces devoirs. Juste avant, on va s'écouter Matt Marvan sur Phare FM, après la petite pause que voici.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning. Positive Morning.
Retrouver le miraculeux de la vie dans toutes ses dimensions, tel est l'objectif de cette semaine sur Phare FM consacrée à la vie. Alors on a vu différentes manières de retrouver le miraculeux de notre vie dans toutes ses dimensions, et ce chaque jour on avait un angle différent. Dernier angle de la semaine, dernier volet aujourd'hui, c'est le sens de l'existence. Alors Charles-Éric de Saint-Germain, vous êtes philosophe et vous nous expliquez que finalement ça peut se diviser en stades, un stade esthétique par exemple et aussi un stade éthique, ce sont différentes manières de vivre. Alors dans le stade éthique il y a différentes formes de devoirs, vous avez commencé un petit peu à les aborder juste avant, on vous laisse développer.
Alors oui, je voudrais d'abord parler peut-être du devoir de travailler, parce que finalement cela correspond à notre vocation d'homme dans la société. Mmh. Nous avons reçu des talents et nous avons à mettre en œuvre ces talents au service de la collectivité. Voilà pourquoi travailler est vraiment pour l'homme un devoir. Alors la vision qu'a celui qui vit dans l'éthique du travail est assez différente de celle de l'esthète. Mmh. Hein, parce que l'esthète, c'est celui qui au contraire considère le travail comme une contrainte auquel il faudrait s'astreindre, et il pense que la vocation de l'homme, finalement, l'homme se réalise davantage dans l'oisiveté, hein, parce que pour lui, travailler, finalement, n'est pas un devoir, mais c'est simplement un moyen de gagner de l'argent. Mais dans l'absolu, je dirais que mieux vaudrait vivre dans une certaine forme d'oisiveté, en tout cas, c'est la vision de l'esthète. Alors que pour l'éthicien, celui qui vit dans l'éthique, travailler est vraiment un devoir moral. Hein, c'est-à-dire que ça correspond même à une vocation. Et vous savez que Luther a traduit le mot « beruf » dans la Bible comme étant une vocation et un travail, un métier. Donc il y a bien ce rapport entre le métier, le travail et la vocation. Voilà pourquoi Luther et l'éthique du protestantisme en général va réhabiliter le travail finalement comme étant ce qui contribue non seulement à la sanctification du monde, mais aussi à notre propre sanctification. Il y a un renversement par exemple par rapport à la hiérarchie qui était établie au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge considérait finalement que dans la hiérarchie des activités, il y avait, vous savez, la devise bénédictine « laborare » être orare, c'est-à-dire travailler et prier, mais il y avait un ordre dans cette hiérarchie, c'est-à-dire que les moines qui s'adonnaient à l'oraison avaient une vocation plus haute que les artisans ou les commerçants qui travaillaient. Alors que Luther va considérer finalement que celui qui travaille et qui met tout son investissement, qui met tout son cœur dans son travail, le boulanger par exemple qui chaque matin pétrit son pain, n'en rend pas moins gloire à Dieu finalement que celui qui s'adonne à la contemplation ou à l'oraison. Voilà pourquoi le travail devient quelque chose de central, parce que c'est dans le travail que l'homme peut réaliser sa vocation, en tout cas sa vocation d'homme, en mettant en œuvre les talents qui lui ont été donnés, les talents qu'il a reçus, et par ce travail, il contribue par conséquent à sa propre sanctification et à la sanctification du monde. Mmh. Alors, en ce sens, on peut vraiment voir dans le travail un service divin.
Mmh. Et alors dans cette partie des devoirs aussi de l'homme, il y a le côté mariage, c'est un devoir. Alors parle d'amour quand même, mais un devoir quand même.
Alors, tout à fait. C'est assez paradoxal, mais Kierkegaard est un homme de paradoxe. Et pourquoi parle-t-il finalement du mariage comme d'un devoir ? Eh bien, parce qu'il y a, au fondement même du mariage, il y a une décision et pas simplement un sentiment amoureux. Mmh. Hein, parce que si le sentiment amoureux est à l'origine de l'amour, le mariage implique en revanche un engagement qui transforme l'inclination amoureuse en devoir. Parce que désormais, c'est pour moi un devoir que d'aimer mon conjoint. Mmh. Voilà pourquoi le mariage implique un engagement. Hein, ça suppose un risque, ça suppose un pari sur l'avenir, parce qu'on ne sait pas finalement si on va pouvoir aimer véritablement notre conjoint, mais ça montre bien qu'aimer, c'est un choix. Mmh. Hein, c'est pas simplement, finalement, de l'ordre d'un sentiment amoureux.
Alors, juste avant de continuer de développer, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on continuera ensemble sur ce stade et ce devoir amoureux. Vos questions, vos réactions ? Tout de suite au plus 33 652 300 342 et notre invité continuera donc sur cette thématique et d'autres stades qu'on verra d'ici la fin d'heure.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning.
On parle du sens de l'existence ce matin. Le thème de la semaine, c'est de célébrer la vie et de retrouver tout ce qu'elle a de miraculeux, en tout cas selon différents angles. Et forcément, si on parle de la vie, du fait qu'il y ait des miracles, il y a un miracle dans la vie, dans le fait qu'il y ait la vie, on parle aussi du sens de l'existence, des différents stades aussi qu'il peut y avoir dans l'existence, des différentes manières de vivre. Vous les abordez avec nous depuis le début de cette heure, Charles-Éric de Saint-Germain, vous êtes philosophe. Alors on parlait du stade éthique d'une manière éthique de vivre, si je puis dire. Et on parlait du mariage, vous nous le décrivez comme un devoir. C'est pas très vendeur comme idée.
Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu austère, mais ce que Kierkegaard veut montrer, c'est surtout qu'au fondement même du mariage se trouve une décision, hein, plus que le sentiment amoureux. Mais il montre aussi finalement qu'on peut évidemment entretenir ce sentiment amoureux, on doit entretenir la flamme, comme on le dit. Voilà pourquoi il faut en quelque sorte faire appel à des stratégies esthétiques dans le stade éthique lui-même. Parce que ces stratégies esthétiques, c'est ce qui va permettre justement que le sentiment amoureux puisse grandir et qu'il puisse croître et qu'il puisse même s'approfondir, je dirais. En ce sens, effectivement, ce que je voulais surtout montrer, c'est que le mariage n'est pas une dimension passionnelle, mais c'est plutôt une dimension où l'homme s'accomplit, mais s'accomplit, je dirais, en se réalisant à travers cette vocation au mariage. Alors simplement, je voudrais préciser que le danger de l'existence éthique, finalement, c'est que l'individu ne s'investisse plus dans ses devoirs. Mmh. Et lorsque l'individu ne s'investit plus dans son devoir, il peut très vite avoir le sentiment de mener une existence absurde. Et qui devient absurde par la routine, par l'habitude, par la monotonie. Hein, c'est ce qu'exprime un petit peu la devise existentialiste métro, boulot, dodo, mmh. où finalement on mène une vie qui est totalement monocorde, monotone.
Robotique, oui.
On ne trouve plus de sens, mmh. en quelque sorte, à ce que l'on fait, dès lors que l'on ne s'investit plus dans ses devoirs. Et alors, à ce moment-là, effectivement, le devoir devient un peu quelque chose de mécanique. Hein, il va se caractériser par une certaine forme de raideur. Or, c'est ce qui empêche, c'est ce qui étouffe, finalement, ce qui fait l'individualité de chacun. Voilà pourquoi, en fait, il faut parvenir au stade religieux, parce que c'est seulement au stade religieux que l'homme va pouvoir découvrir sa véritable identité. Mmh. Son identité, c'est pas quelque chose qu'il choisit ou qu'il se serait donné à lui-même, mais c'est quelque chose qu'il reçoit. Et il la reçoit dans une vocation. C'est ce que montre bien le stade religieux avec cette figure emblématique qui est la grande figure d'Abraham. Parce oui. que Abraham, c'est justement celui qui va recevoir sa vocation comme un appel de Dieu. Mmh. Hein, ce n'est plus lui qui s'engage dans l'existence par ses choix, mais il se trouve appelé par Dieu et l'appel est assez terrible. Hein, mmh. Parce que ce que montre Kierkegaard dans Crainte et tremblement, c'est que ce que Dieu demande à Abraham, c'est quelque chose d'absurde. Mmh. Pourquoi ? Parce que Dieu lui a promis qu'il aurait une descendance par son fils Isaac, et là, Dieu va lui demander de sacrifier ce fils, mmh. hein, l'héritier de la promesse. Alors évidemment, on peut imaginer au stade religieux la situation qui est celle d'Abraham, hein, qui est une situation d'incompréhension par rapport à la demande qui est celle de Dieu. Mais ce que veut montrer Kierkegaard par là, finalement, c'est que la foi est aussi de l'ordre de l'épreuve. Hein, il s'agit d'éprouver la foi d'Abraham pour savoir s'il va maintenir ou non sa confiance en Dieu, sachant que le propre du stade religieux, c'est qu'il s'agit d'un stade où on ne se laisse plus conduire par son désir, mais on se laisse conduire par la volonté de Dieu. Mmh. Et on accepte finalement ce projet de Dieu sur notre vie. Alors ça suppose évidemment de renoncer, un certain renoncement à soi. Hein. Il y a forcément une part de renoncement dans le fait de ne plus être l'artisan de sa propre vie, parce que l'éthicien, c'est celui qui construit sa propre vie par ses choix. Or, ce qui nous est demandé au stade religieux, c'est plutôt une déprise de soi. Mmh. Il s'agit non plus d'être l'artisan de sa propre vie, maître de ses choix, mais d'accepter de faire la volonté d'un autre, mais un autre qui n'est pas un tyran. Hein. Dieu n'est pas un tyran parce qu'il nous laisse le choix. Mmh. Mais profondément, il sait sans doute ce qui est le mieux pour nous. Alors voilà pourquoi la foi implique de ce point de vue un risque. Et en un sens, la vie religieuse, c'est une vie qui retrouve un petit peu le caractère que l'on rencontrait déjà dans le statistique, c'est-à-dire que c'est une vie aventureuse, hein, parce que le danger de l'existence éthique, c'est une vie finalement qui devient monotone par habitude, alors que l'existence religieuse, c'est une existence pleine de risques, on ne sait pas où Dieu va nous conduire. Et il faut accepter finalement de rentrer dans ce plan de Dieu, avec parfois des incompréhensions.
Eh bien, on va voir encore ces incompréhensions, on va développer encore tout cela. Vos questions, vos réactions, n'hésitez pas. Plus 33 652 300 340. On revient avec notre invité pour continuer de philosopher finalement, on philosophe ce matin avec notre invité. La musique est là pour aussi nous accompagner dans cette matinée sur Phare FM. Voici FM Statique avec Lost in You.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positive Morning. Positive Morning.
Et c'est pas tous les jours hein, sur Phare FM qu'on a un philosophe avec nous. Jusqu'à 10h, Charles-Éric de Saint-Germain est notre invité en duplex. Pourquoi est-ce qu'on a un philosophe avec nous ce matin sur Phare FM ? Et bah parce qu'on parle de la vie, on parle célébrer la vie. Et forcément, retrouver le miraculeux de la vie dans toutes ses dimensions, ça demande à un moment, Nathanaël, de se poser des questions qui peuvent être des questions d'ordre philosophique, comme celle par exemple du sens de l'existence. Mmh. Plusieurs manières de vivre que vous décrivez depuis le début de cette heure avec nous, Charles-Éric. Une manière plus esthétique, plus esthète de vivre la vie. Une manière plus éthique consacrée au devoir. Et vous étiez en train d'aborder avec nous tout à l'heure une manière religieuse de vivre sa vie. Le stade religieux, c'est comme ça que vous l'appelez. Est-ce que ça veut dire consacrer sa vie à sa foi? Parce que ça fait pas très envie, pardon, mais...
Ça veut dire mettre Dieu, je pense, à la première place, hein, lui rendre gloire, et c'est le mettre à sa première place. Voilà pourquoi, finalement, avoir la foi, c'est d'abord lui faire confiance. Avoir la foi, c'est pas croire que Dieu existe, hein, mais c'est croire Dieu, c'est-à-dire croire en ses promesses. Et Abraham, c'est celui qui croit à la promesse de Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui croit que même s'il lui sacrifiait son fils, eh bien, Dieu serait suffisamment puissant pour le ressusciter. Hein, ce qui montre que la foi d'Abraham, finalement, est grande. Voilà pourquoi la foi suppose toujours un risque à prendre. Hein, c'est-à-dire, la foi est de l'ordre du saut. Il faut faire un saut dans la foi en faisant confiance à Dieu et en s'abandonnant à sa volonté. Donc, l'homme qui vit dans le stade religieux, c'est un homme qui, finalement, accepte ce risque de la foi, alors même qu'il est dans l'incertitude. Mmh. Hein, il ne sait pas, s'il est dans un vrai rapport à Dieu. Voilà pourquoi il ne peut trouver de refuge que dans la seule confiance, finalement, qu'il place en Dieu, sachant que s'il avait des preuves que Dieu existe, eh bien à ce moment-là, la foi n'aurait plus lieu d'être. Donc, la foi suppose toujours ce risque à prendre.
Et un pas de confiance.
Elle suppose aussi... Oui.
Et un pas de confiance, aussi... pardon. Oui.
Allez-y.
On disait un pas de confiance également.
Donc, elle suppose aussi un engagement, c'est-à-dire une décision. Et d'ailleurs, de ce point de vue, vous voyez que le stade religieux reprend certains aspects du stade esthétique. Hein, parce que autant, quand on est dans l'ordre du savoir, finalement, on se rend aux raisons objectives d'une démonstration. Alors que la foi, elle implique de prendre position de manière personnelle. Mmh. Hein, c'est la raison pour laquelle le verbe croire se conjugue toujours à la première personne du singulier. Croire, c'est dire credo, c'est dire je crois. Et donc, le chevalier de la foi, comme le dit Kierkegaard, c'est celui qui, précisément, est dans une certaine forme d'insécurité, mais qui va prendre position dans sa foi, sachant que la foi, c'est pas tant ce qui ignore le doute, hein, c'est pas une certitude qui ignorerait le doute, mais c'est plutôt ce qui combat le doute. Autrement dit, c'est bien en ce sens, dans la nuit de la foi, que la foi peut s'éprouver. Je vous avais dit tout à l'heure que la foi était une catégorie qui était de l'ordre de l'épreuve, et qu'elle peut aussi se purifier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne faut pas confondre deux catégories qu'on a tendance parfois à confondre, qui sont celles de la croyance et de la foi. Mmh. Parce que la croyance, finalement, elle se sera d'autant plus grande et d'autant plus ferme que l'objet dans lequel je crois est vraisemblable.
Alors on va continuer on va continuer à développer ça dans un petit instant sur Phare FM. Merci Charles Eric en tout cas d'être avec nous ce matin. N'hésitez pas vous à réagir et à poser vos questions. Plus 33 652 300 342.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
On continue jusqu'à 10h, toute dernière ligne droite pour célébrer la vie, retrouver le miraculeux dans notre vie de tous les jours. Alors, on parlait de différents sens finalement qu'on peut donner à son existence avec vous, Charles-Éric de Saint-Germain. Vous êtes philosophe et vous êtes donc avec nous jusqu'à 10h. Alors, il y a une manière religieuse, on va dire, si je puis dire, de donner du sens à son existence. Et alors, à ce propos, vous nous le disiez tout à l'heure, il ne faut pas confondre la croyance et la foi. Voulez-vous préciser votre propos ?
Oui, voilà, je voulais montrer simplement que la croyance a pour objet le vraisemblable. Hein, c'est-à-dire, plus ce en quoi je crois est vraisemblable, plus la croyance sera forte. Et dans la Grèce antique, c'était justement le rôle des orateurs que de susciter la croyance par des arguments probants. Alors que le propre de la foi, elle porte sur le paradoxe. C'est-à-dire sur quelque chose finalement qui, pour la raison, est incompréhensible, hein, au sens où il s'agit finalement de croire en l'existence d'un Dieu qui s'incarne et qui, par amour, se laisse crucifier. Mmh. Donc, il y a là quelque chose qui quelque part scandalise la raison. Hein, Saint Paul disait que c'est un scandale pour les Grecs, une folie pour les païens, un scandale pour les Juifs. Voilà pourquoi finalement la foi a pour objet l'invraisemblable. Mais grâce à ce don que Dieu nous fait de la foi, nous pouvons adhérer à ce qui, pour la raison, paraît la dépasser, ce par quoi elle se reconnaît comme dépassée. Voilà pourquoi finalement... c'est pas par des raisons de croire que l'on vient à la foi. Ça ne veut pas dire que la foi n'a pas de raison de croire. Il y a des raisons qui justifient notre croyance. Mais il me semble que le propre de la foi, justement, c'est qu'elle se fonde d'abord sur l'attestation intérieure du Saint-Esprit, même si, bien évidemment, on peut toujours chercher à justifier sa foi par des raisons. Alors, pour conclure un petit peu, je voudrais simplement rappeler que l'existence, finalement, doit se comprendre comme une véritable vocation. Ça signifie que, finalement, ce n'est que dans le stade religieux que l'on peut découvrir qui l'on est véritablement, parce qu'on répond à un appel. Cet appel nous interpelle personnellement et, en même temps, il va nous révéler à nous-mêmes. Il y a comme une nouvelle naissance dans cette interpellation qui correspond en même temps à notre désir peut-être le plus profond. Le mariage aussi peut être vécu comme une vocation. Et je crois que c'est important de rappeler cette dimension-là, parce que le mariage n'est pas simplement en soumission à des devoirs, il peut aussi être perçu comme une véritable vocation par laquelle nous allons réaliser cette alliance. La même alliance qui existe finalement entre Dieu et son peuple peut se réaliser aussi au sein du mariage. En même temps, c'est dans cette alliance que, dans cet appel aussi, dans la réponse à cet appel, que l'individu va découvrir qui il est véritablement. L'esthète, c'était celui finalement qui n'avait pas véritablement d'identité, parce que Don Juan porte des masques, mais il ne sait pas qui il est véritablement. Ces masques, ce sont les masques du séducteur. L'éthicien, c'est celui qui construit son identité par ses choix, mais comme c'est une identité qu'il construit et non pas une identité qu'il reçoit, il ne découvre pas qui il est devant Dieu. Et Kierkegaard pense que ce n'est que devant Dieu que l'on peut découvrir qui l'on est véritablement en tant qu'individu singulier. Voilà pourquoi penser l'existence comme une vocation revient à faire de notre existence une véritable œuvre d'art, ben, sachant, me semble-t-il, que ce qui caractérise l'œuvre d'art, c'est son unicité, le fait qu'elle est unique, c'est son originalité, hein, le fait qu'elle sort un petit peu des normes, et enfin, c'est son exemplarité, le fait qu'elle est aussi un modèle qui entraîne les autres à vivre justement l'existence comme une véritable vocation.
Et ça lui donne un véritable sens donc à cette existence. Merci beaucoup Charles-Éric de Saint-Germain d'avoir été notre invité aujourd'hui. Vous êtes philosophe. On rappelle le nom d'un de vos livres, écrit philosophico-théologique sur le christianisme. Ça peut vous intéresser, vous qui nous écoutez ce matin. Et c'est paru aux éditions Excelsis. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Très bonne journée et puis bon week-end aussi à tous nos auditeurs aussi. Sandrine, on rappelle que toutes ces interventions de nos invités de 9h à 10h, hein, tout au long de la semaine sont en replay, en intégralité en replay sur le site farfm.com.
Et on vous dit, à lundi,
oui,
moi demain je dors, n'est-ce pas. À lundi donc 6h pour le prochain Positif Morning, bye bye.
Bye bye.